Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour, heureuse de vous retrouver, nous sommes à Nice, où déjà depuis 3 jours se déroule la première étape de la grande rencontre sur l'océan. Cette première rencontre onusienne, depuis 10 ans en France, marque un peu les esprits. Rappelez-vous, c'était la COP21, dite COP Climat, qui s'était déroulée à Paris, conclue sur l'accord de Paris, fixant un seuil de réchauffement fatidique du climat à 1,5 degré. Alors depuis, bien sûr, nous dépassons l'initiative de Christophe Béchu, quand il fut ministre de l'Environnement, de poser une réflexion à 4 degrés, nous a permis à tous les partenaires industriels, collectivités, grand public, de se donner un peu de temps pour respecter ces 1 degré et imaginer que nous pourrons atteindre le seuil des 4 degrés. C'est ce qui, de toute façon, est en train de se prouver. Alors aujourd'hui, à Nice, l'océan est une nouvelle préoccupation. Depuis le 4 juin, 2000 scientifiques du monde entier tente de fixer des règles comme le GIEC l'avait fait pour le climat. Alors c'est une belle assemblée qui réunit bien sûr les grands laboratoires et qui réunit aussi des scientifiques qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir. Alors à l'OSC, traduisez Congrès scientifique océan, on a échangé sur la nouvelle définition des AMP. Nous en reparlerons à cette antenne le 20 juin avec un grand chercheur de l'IRD qui s'appelle Gilbert David et qui a travaillé un peu sur la mise en œuvre des ONG à échelle mondiale. Ils ont travaillé également à l'exploitation des fonds marins et qui relève la proposition du moratoire. On ne peut explorer sans connaître un moratoire qui tente de trouver des parades aussi à la pêche illégale. Mais là, l'OSC renvoie plus que jamais à la section étatique qui va s'ouvrir le 9 et qui se déroulera du 9 au 13, car on ne luttera pas efficacement contre la prédation en mer sans en fixer les règles. Et cela dépend essentiellement des États, dès que l'on passe bien sûr aux questions de droit. Puisque nous abordons la question des États, écoutons ce qu'Olivier Poivre d'Arvor nous dit de l'ambition essentielle officielle de l'UNOC. Alors, je rappelle que Olivier Poivre d'Arvor a été ambassadeur de France longtemps, identifié au niveau de la culture. C'est depuis 2020 que Emmanuel Macron l'a nommé ambassadeur des pôles et des milieux maritimes. Je rappelle à ce sujet que Michel Rocard avait été un de nos grands acteurs de l'ambassade des pôles. Entre-temps, on avait eu Ségolène Royal, mais elle n'avait pas fait grand-chose. Et donc, on retrouve Olivier Poivre d'Arvor, qui est en même temps le président du musée de la Marine et qui nous rappelle donc le pourquoi de sa mission, puisqu'il a été nommé par Emmanuel Macron pour lancer l'UNOC 3.
La conférence des Nations Unies, c'est 5 jours de négociations politiques. Là, il y aura une centaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le souverain, évidemment, et puis les présidents que l'on peut imaginer, le président Lula, le premier chinois, seront là. Et pendant 5 jours, ils vont discuter. Et puis à la fin de ces 5 jours, ils vont décider. Donc ces accords de Nice pour l'océan qui vont sortir seront, je pense, j'espère en tout cas, aussi importants que les accords de Paris pour le climat. Mais avant, les Nations Unies demandent aux organisateurs d'organiser quelques événements très mobilisateurs sur des sujets de fond et pas de la discussion politique. Il y avait trois sujets, et notamment l'économie et la finance, évidemment, qui est un vrai grand sujet. L'autre étant la science qui se tient à Nice, et puis le troisième, encore à Nice, sur la question de l'élévation du niveau de la mer. Mais l'économie bleue et la finance bleue, c'est évidemment capital, parce qu'il faut investir dans l'océan, sinon, si on veut le restaurer, si on veut le développer, si on veut l'exploiter durablement, ça ne marche pas. Et l'OCDE va sortir un chiffre qui est très simple, hein, si l'océan était une économie, ça serait la cinquième économie mondiale. C'est dire que... Et c'était la septième économie il y a 10 ans. Ben c'est tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire c'est la pêche, c'est l'armement naval, c'est le transport maritime qui représente 96% du transport mondial. C'est évidemment aussi le tourisme bleu, c'est l'aquaculture, c'est les énergies renouvelables, vous l'avez dit, c'est les câbles, c'est les ports, c'est le shipping, c'est le yachting, c'est plein de choses qui aujourd'hui, bout à bout, font que l'océan, d'abord, un, nous est indispensable, et deux, nous sommes reliés physiquement et économiquement les populations, puisque c'est 10 milliards d'habitants que nous serons en 2050, près de 75% vivront à moins de 70 km d'un littoral. Le climat, c'est un grand problème qu'on ne va pas uniquement traiter avec de l'argent. C'est un vrai problème, et je ne suis pas certain que les COP, biodiversité ou climat, puisse être favorable dans l'avenir. L'océan, c'est beaucoup plus simple. L'océan, à part les sujets du changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, par exemple, mais il s'agit un peu de réparer, mais il s'agit surtout de penser l'exploitation durable. Donc, c'est beaucoup de solutions. Et les solutions, ça intéresse qui ? Les citoyens et puis les entreprises. Donc, je pense, par exemple, à une chose très simple. Dans quelques semaines, j'espère, à Nice, sera ratifié un traité de la haute mer. On va enfin avoir une gouvernance pour 60% de la mer. Eh bien, à ce moment-là, il faut aller chercher ce qui est dans la mer, les ressources génétiques, les ressources halieutiques, et puis organiser le partage. Et donc, il y aura des investissements privés. De même que pour la science, on va lancer un grand programme, et j'espère que Monaco, j'en suis certain, sera partenaire, le plus grand programme d'exploration scientifique de l'océan, qu'on connaît mal, la mission Neptune. Et là, je pense qu'on n'aura pas de difficulté à trouver des organismes scientifiques, mais aussi des partenaires privés, des philanthropes. L'océan fait rêver. Le climat, ça ne fait pas rêver. C'est pour ça que c'est plus compliqué. Mais l'océan, tout le monde a une perception, même les pays qui sont dans l'espace terrestre. Oui, ça fait rêver. Donc, par exemple, la connaissance scientifique, Cousteau, ça fait rêver. Ça fait rêver des générations, comme Jules Verne. Ben, avec le programme Neptune, on va pendant 10 ans explorer tout cet océan. Découvrir des forêts tropicales sous-marines, découvrir des espèces nouvelles, comprendre comment ça fonctionne et surtout comprendre notre rapport avec cette machine magnifique. Et au-delà du rêve, il y a des réalités économiques. Beaucoup de gens vivent de l'océan, beaucoup de populations vivent de l'océan. Et surtout, beaucoup de gens y passent au moins un mois par an pour y passer des vacances. Et donc ce rapport, il existe, il est assez physique.
Vous comptez sur l'humain, sur le sentiment à ce moment-là.
L'eau, c'est 80% de la surface de la planète. Et nous sommes 80% faits d'eau. Donc je pense que cette rencontre, elle est sinon évidente, mais en tout cas, elle est très prometteuse.
Alors s'il devait y avoir accord à Nice, pour vous, quel est le point essentiel à noter ? Quelle est la priorité absolue ?
Que l'ensemble des pays, des Nations Unies, ensemble, décident de ratifier un traité qui va permettre que 60% de la haute mer, c'est-à-dire 40% de la planète, soit gouvernée de manière équitable, avec le partage des richesses et des ressources génétiques et halieutiques avec l'ensemble des pays du monde, et qu'on fasse de cet espace de la haute mer, c'est-à-dire tout ce qui n'appartient pas aux États, mais ce qui est le bien en commun, qu'on affirme l'importance de ce bien commun de l'humanité. Il n'y en a pas tant que ça. Je vois ce débat qui se passe autour de l'espace. Je pense que c'est plus important aujourd'hui d'aller sur Neptune, en quelque sorte, d'aller chercher Neptune bleu, que d'aller sur Mars. Donc je fais ce pari aussi qu'il aura le mérite peut-être de ramener un certain nombre de pays à la réalité d'une évidence, c'est que nous sommes l'océan.
Alors, bien sûr, vous vous en êtes aperçu, cet enregistrement d'Olivier Poivre d'Arvor, nous l'avions fait avant que ne s'ouvre l'épisode niçois. Et on sent que déjà, bien des choses semblent se dessiner. La séquence scientifique s'achève, nous venons de la vivre, nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous avons vu également le 7 et 8 que les moyens financiers nécessaires pour y parvenir ont été décidés par les dirigeants politiques et c'est à eux maintenant de décider. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir là-dessus, mais sachez quand même que Enfin, on le saura. On le saura la semaine prochaine quand nous serons en direct depuis la conclusion de l'UNOC de Nice. Mais cette ratification attendue par Olivier Poivre d'Arvor, cette ratification dans laquelle s'est engagé le président Macron, n'est pas du tout évidente. Nous sommes actuellement à 21 signatures de pays pour accéder à la haute mer. Il en faudrait 60 pour qu'un protocole démarre et que régulièrement des COP soient organisées, comme pour la biodiversité ou comme pour le climat, pour fixer des règles et fixer des droits. Or, les experts, tous ceux qui négocient, doutent un peu d'arriver à ces 60 signatures. Enfin, on le verra la semaine prochaine. Mais si jamais, en tout cas, la Chine signait, ce serait déjà quelque chose d'immense. En tout cas, bref, maintenant, nous allons essayer d'y voir un peu plus clair dans les enjeux et les objectifs de cette réunion de Nice. Donc, écoutons Julien Rochette. Julien dirige le programme Océan à l'IDRI, dont les travaux portent essentiellement sur la gouvernance de la biodiversité en haute mer, les siens, bien sûr. Il nous explique d'abord pourquoi un accord global sera difficile. Et puis, l'UNOC 3, il nous explique un peu ce que c'est. C'est en fait quelque chose qui vient renforcer l'ODD 14, c'est-à-dire l'objectif de développement durable, qui doit être mis sur la table en 2030, puisqu'en 2030, on doit faire exactement un point sur l'état de la planète. Donc, est-ce que l'objectif de développement durable océan aura été un peu pris en compte, un peu plus qu'il ne l'est actuellement, car il ne semble pas du tout intéresser les gens, et on s'étonne de pourquoi quand on voit l'importance de l'océan. Donc, écoutons Julien Rochette nous expliquer comment les 90% de la planète se dégradent et pourquoi il faut agir.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a de très nombreuses organisations intergouvernementales qui ont un mandat sur le milieu marin. Il n'y a pas une seule agence des Nations Unies sur l'océan qui regrouperait tous les mandats. L'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, s'occupe de transport maritime. L'AIFM, Autorité Internationale des Fonds Marins, de ressources minérales. Le Programme des Nations Unies s'occupe sur l'environnement, s'occupe de tout ce qui est biodiversité marine. La FAO, de la pêche, l'UNESCO, de la science, etc., etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est assez compliqué de s'y retrouver, d'autant plus qu'on n'a pas un seul traité océan, mais on a plein d'accords internationaux sur l'océan. La Convention sur la diversité biologique, elle s'applique au milieu marin. On a des dizaines et des dizaines d'accords qui ont été adoptés à l'OMI sur le transport maritime. On a la Convention sur les espèces migratrices, plein de règles sur de la FAO et des organisations régionales de pêche, et aussi, à échelle régionale, des conventions de mer régionales, comme la Convention de Barcelone en Méditerranée, que vous connaissez peut-être. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que dans ce contexte, ce qu'on dit souvent, c'est que le cadre de gouvernance de l'océan, il est fragmenté, parce qu'il est particulièrement étoffé avec un édifice juridique qui s'est développé depuis les années 70. Et aujourd'hui, finalement, on a très peu de vide juridique. Par contre, on a des problèmes de mise en œuvre. Pendant de très nombreuses années, à partir des années 70, 80, 90, on a adopté tous ces outils juridiques. Et aujourd'hui, maintenant, le grand défi, c'est de pouvoir les mettre en œuvre. On n'arrivera jamais à avoir une lecture simple, parce qu'elle est inhérente au système et à son histoire. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue, qui n'est qu'un point de vue personnel. C'est que la fragmentation du cadre de gouvernance de l'océan, elle est inhérente au système et à son histoire. Et qu'on n'arrivera jamais à avoir une lecture simple, parce que, en gros, pour le dire très vite, gouverner l'océan, régir l'océan, c'est compliqué. Et on a besoin des différentes organisations qui existent aujourd'hui, on a besoin des différents accords. Et le traité haute mer, pour moi, il ne rajoute pas de la complexité à la lecture, au contraire, il donne un cadre juridique à un espace qui n'avait pas jusqu'à présent, et qui permet justement d'avoir un cadre de concertation et de coopération pour la gestion d'un espace qui représente quand même la moitié de la planète. Il y a, en matière de cohérence et de mise en synergie, des progrès à faire en matière de coordination des institutions, notamment, et de coordination et de mise en synergie des actions. Mais on n'arrivera jamais à une rationalité parfaite dès lors que le système est le produit d'une histoire et que chaque convention et chaque organisation ont aujourd'hui une valeur ajoutée dans le système. Mais évidemment, il faut essayer de renforcer la cohérence de l'ensemble.
Alors, cette volonté de renforcer la cohérence de l'ensemble des lois qui réglementent l'océan, pour l'instant, fait ces lois s'appliquer au niveau des ADEE, c'est-à-dire sur une zone qui dépendait de chaque État, une zone littorale dans la mer. Et c'est pour ça qu'il faut pousser cette zone vers la haute mer aujourd'hui pour réussir à protéger davantage l'océan. Donc, on voit et on a vu au cours de la réunion des scientifiques que justement un des aspects principaux allait nous aider beaucoup. C'est celui qui a été développé par Ariel Fuchs, qui représentait le CNES. Ariel est ingénieur en environnement, hein. Il a été plongeur, journaliste dans une ancienne vie. Il est aujourd'hui consultant et conseiller océan et affaires maritimes pour le CNES. Et il a présenté la création du Space for Ocean Alliance, excusez mon accent, qui est chargé de connecter le secteur spatial et le secteur marin de l'océanographie. Parce que pour accompagner au mieux les pays en première ligne, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque navire. Donc, il y a une grande organisation à mettre en place aujourd'hui qui n'est pas faite, c'est-à-dire il faut observer davantage l'océan, il faut identifier tout ce qui n'est pas encore l'objet de recherche, l'objet d'une observation. Il faut ouvrir donc d'autres missions spatiales innovantes. Il faut aider et offrir les données aux pays les moins avancés, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des satellites, de lancer des satellites et de posséder les données. On voit d'ailleurs, on a vu comment Trump essaie d'asseoir son empire en privant justement tous les pays en développement de données. Donc il va falloir que, et c'est un peu cette mission que se donne le CNES, essayer de renforcer l'accès aux données pour les pays qui n'en ont pas les moyens, et puis élaborer des indicateurs globaux sur la santé de l'océan, c'est-à-dire qu'on puisse voir chaque année si quelque chose a été, oui ou non, si on peut dire que, oui ou non, on a un progrès. Alors, on regarde déjà donc vers cette meilleure gouvernance.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur l'océan, d'une manière générale, on a un problème de mise en œuvre du droit. Et que l'étendue de l'océan et la multiplication des usages fait qu'évidemment, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque usager de l'océan. Et donc, on essaye aujourd'hui de trouver des moyens pour avoir une meilleure surveillance de ce qui se passe sur les mers du globe. Et les outils technologiques sont des outils de plus en plus efficaces, de moins en moins coûteux, et qui vont pouvoir être progressivement, et qui sont déjà, et qui vont continuer à être mises au service de la gouvernance de l'océan. Et c'est particulièrement intéressant pour des espaces extrêmement étendus et éloignés, que pourront être, par exemple, les futures aires marines protégées en haute mer. Futures aires marines protégées en haute mer, si elles sont au milieu de l'Atlantique ou au milieu du Pacifique, on ne va pas avoir beaucoup de bateaux qui vont patrouiller autour et qui vont être chargés de surveiller le respect des plans de gestion. Donc il va falloir passer par ces outils technologiques qui vont permettre de pouvoir assurer une meilleure surveillance. Néanmoins, nous, ce qu'on voit, c'est que, d'après nos recherches, c'est que les outils technologiques, c'est une plus-value indéniable, mais ce n'est pas une recette miracle. C'est-à-dire qu'on va devoir aussi adapter les politiques, les stratégies et les lois pour les rendre efficaces. Je vous donne un seul exemple. Aujourd'hui, un satellite permet de détecter les activités illégales en mer, permet même de prendre des photos de navires faisant des activités illégales en haute mer. Il n'en reste pas moins que si l'État qui est concerné par ce bateau n'accepte pas comme preuve devant ses tribunaux les images prises par les satellites, ça ne sert absolument à rien. Donc en fait, La technologie avance très vite. Il va falloir aussi que tout le système juridique, politique et de gouvernance avance de la même manière pour rendre les technologies efficaces sur le terrain.
Le 7 juin, c'est d'ailleurs demain, se déroulera la grande réunion des villes mondiales proches des littoraux et menacées par la montée des eaux. Donc, on sait aujourd'hui que tout le littoral Languedoc-Roussillon, par exemple, est aujourd'hui menacé par la montée des eaux. Mais plus grave, il y a des villes qui sont en train déjà de s'enfoncer dans la mer. Jakarta, par exemple, commence déjà à être délocalisée et sur les collines environnantes, on a déjà remonté certains quartiers. On sait également que la ville de New York, trop lourde, s'enfonce également dans la mer. Donc plusieurs causes viennent s'ajouter les unes les autres et faire en sorte que aujourd'hui on ait une menace extrêmement importante. Il y a la montée de l'océan, bien sûr, il y a la fonte des glaces, on y reviendra. Il faut se souvenir d'ailleurs qu'Olivier Poivre d'Arvor a travaillé avec Heidi Sévestre, la glaciologue, sur la fonte de toute la banquise arctique et que aujourd'hui on avait besoin de ces données pour voir à quel point étaient menacées nos régions. Et en lien donc avec de nombreuses universités, la ville de Nice a pris la responsabilité de cette journée. Mais bien sûr, on verra ce qu'il faut en attendre.
Avec l'objectif de créer une coalition de villes désireuses de s'engager sur les aspects adaptation et désireuses aussi de partager les expériences et de se réunir régulièrement. Et donc, on devrait avoir à l'issue de cette journée la création d'une coalition dédiée qui permettra de faire avancer le sujet, qui est un sujet qui est extrêmement, qui est majeur et avec une échelle d'action, c'est-à-dire les villes côtières, qui est tout à fait pertinente puisque c'est quand même à cette échelle que à la fois se font sentir les impacts et à cette échelle où peuvent être prises les décisions pour les minimiser.
Et là, on s'aperçoit que les choses s'accélèrent.
Ah ben absolument, sur la question de l'adaptation au changement climatique et des villes côtières, les enjeux sont de plus en plus importants et c'est pourquoi cette coalition serait absolument bienvenue pour accélérer le mouvement.
Alors on peut cependant s'inquiéter du moment où se déroule cette réunion, l'UNOC 3. Avec l'arrivée de Trump au pouvoir et la traînée de poudre qui en découle dans de nombreux pays, on craint un retour en arrière. À la réunion en 1992, au sommet de la Terre à Rio, on avait vu l'émergence d'une pensée multilatérale, d'une solidarité entre États, d'un début de travail multidisciplinaire entre différents secteurs de recherche qui tentaient de prendre en compte la complexité des problèmes écologiques et des problèmes de la planète. Il semblerait que la situation géopolitique d'aujourd'hui soit un peu différente et soit beaucoup plus noire. Alors, faut-il abandonner ce travail commencé pour éviter à notre planète de sombrer ? Non, nous dit Julien Rochette, ce n'est pas le moment de baisser les bras, écoutons-le.
Vu l'urgence de la situation, on n'a de toute façon pas le luxe de douter et que dans le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut utiliser tous les événements, toutes les mobilisations pour essayer de fédérer autour d'actions communes. Maintenant, évidemment, on sait que la situation géopolitique est complexe. La diplomatie française cherche à ce qu'il y ait le plus d'États, de chefs de gouvernement et chefs d'État possible. Et on verra ce qui sera possible de faire et le nombre de chefs d'État ou de gouvernement présents. Néanmoins, j'ai le sentiment que l'UNOC peut faire office d'accélérateur d'initiatives, de lancement d'initiatives, lesquelles, même si elles ne sont pas endossées par l'ensemble de la communauté internationale pour le moment, peuvent ensuite, je dirais familièrement, faire des petits dans les enceintes de gouvernance existantes. Et donc, il n'y a pas de raison de baisser les bras. Il y a peut-être une raison peut-être une opportunité de créer des clubs entre pays qui souhaitent avancer sur certains dossiers pour pouvoir ensuite les porter collectivement et pourquoi pas dans le cadre onusien. De toute façon, en matière de gouvernance des océans, il y a déjà plein de pays qui sont extrêmement bloquants dans de très nombreuses enceintes, des pays qu'on connaît depuis de nombreuses années.
Citons-les.
En matière de gouvernance des océans, la Russie est particulièrement bloquante aujourd'hui dans de nombreuses enceintes. La Chine l'est également côté océan austral, du côté de la Kamlar. Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention sur le droit de la mer et pas encore ratifié la Convention et ne le fera sans doute pas, le traité de la haute mer, en tout cas avec. Sous la mandature de Trump. Mais ça ne veut pas dire qu'entre état de bonne volonté, on puisse pas continuer à impulser les actions et mobiliser l'attention et développer des choses. Moi, je pense que s'il y a une crise du multilatéralisme, d'abord, elle ne date pas de l'arrivée de Trump, elle était déjà perceptible avant. Peut-être qu'elle l'accélère d'une certaine manière, mais on a quand même le sentiment que des batailles sont toujours, il est toujours possible de gagner des batailles environnementales. Ce qu'on dit, ce dont on perçoit, ce qu'on perçoit à l'IDRI, c'est que peut-être ce qui va changer au cours des prochaines années, c'est que les États vont être davantage, la coopération sera davantage possible sur des thèmes environnementaux au sens strict. Vous savez que pendant des années, pendant des décennies, dans les années 70, on travaillait sur des sujets environnementaux, lutte contre la pollution, par exemple. Rio a changé tout ça avec cet aspect développement durable. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les enceintes type CBD et autres, c'est qu'il y a une réticence à inclure au-delà des thèmes environnementaux des approches de type approche par les droits. Mention de l'équité, mention du genre, etc., etc. Place des communautés autochtones. Et donc, c'est peut-être en ça que le champ matériel de la coopération va peut-être se réduire un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore gagner des batailles environnementales.
Voilà, eh bien écoutez, on se retrouve donc en direct vendredi prochain pour faire le point sur cet appel. Rappelons que l'appel de Nice est surtout un lancement d'alerte. Nous ferons donc le point de tous ces accords possibles dont vient de nous parler Julien Rochette.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de
Bien
Java,
sûr.
De Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.